Il est l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Eh oui, des fois il y a du mal à se lancer. C'est ça le direct. Aujourd'hui, on va évoquer et parler des bidochons. Parce que pour la 9e fois, ils vont au musée. Et tout au long d'une déambulation imaginaire, Christophe Binet les fait réagir à des œuvres allant de la Renaissance italienne à l'art contemporain. Ils sont présentés par deux historiens d'art, Patrick Ramad et Pierre Lacote. Un télescopage qui nous renvoie à nos propres réactions, qui seront au centre de notre entretien avec Christian Binet. Ça sera autour de 14h20. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais, puisque les bidochons sont au musée, encadrer cet entretien avec Christian Binet par des œuvres de patrimoine. En bande dessinée, l'édition d'œuvres patrimoniales est importante. Alors en littérature, on a ce travail de fond avec toutes les œuvres classiques. Et en bande dessinée, bien sûr, ça existe. Il y a quelques grandes œuvres qui sont régulièrement rééditées. On peut penser à Tintin ou aux œuvres de Moebius, dont on a par exemple encore une nouvelle version d'Arzac, nouvelle édition d'Arzac. Alors, il y a beaucoup d'œuvres de la bande dessinée mondiale qui sont à découvrir. Et qui trouve enfin, par la volonté de différents éditeurs, une édition qui permette de nouveau de les découvrir, parfois de les redécouvrir, mais pour certaines, c'est un peu plus rare. Et c'est le cas, par exemple, de ce Popeye, dont on a les planches dominicales, les Sundays, qui datent de 1930 à 1933. Alors c'est un format italien et ces pages dominicales, ces Sundays, sont inédites. On n'a jamais eu d'édition en français de ces planches et c'est donc d'autant plus important de pouvoir les appréhender. Alors comment ça se présente et l'histoire de Popeye, c'est quoi ? Alors, ce qui est vraiment assez essentiel, c'est que, d'une part, alors, Popeye est un personnage qui a été créé par un auteur américain, Elsie Chrysler Segar, et donc, en 1919, cet auteur a créé The Tumbly Theater, et qui était une sorte de série humoristique qui mettait un ensemble de personnages ensemble. Et à un moment est arrivé le personnage de Popeye, et personnage qui va prendre beaucoup d'ampleur. Alors, il arrive en 1929, et en 1931, on a vraiment The Tumble Theater auquel se rajoute The Tumble Theater starring Popeye. Et Popeye, c'est pas d'abord l'image du boxeur qui fonctionne aux épinards comme l'a popularisé le dessin animé des frères Fletcher. Il y a eu tout à fait et d'abord une autre dimension de Popeye qui était plutôt au contraire un personnage irascible, joueur qui était susceptible, bagarreur, plutôt un culte avec quelques travers de langage qui jurait comme un charretier. Et c'était une sorte de marin qui n'avait rien du héros traditionnel aux États-Unis. Alors, il a un autre revers, une autre facette qui est celle, au contraire, d'un homme, d'un personnage plutôt fleur bleue, très attentif à Olive, qui veut garder cet amour d'Olive. Il est attentif aux enfants, aux plus humbles. Et donc, il y a une évolution du personnage qui va se faire et qui va commencer dans les premières planches dominicales par être vraiment le boxeur invétéré. Alors, c'est assez étonnant de découvrir ces planches de Popeye dans leur publication américaine, avec ce format qui est quand même assez haut. C'est un format italien. Le livre fait 24 cm de haut pour un peu plus de 28 cm. Et donc, on va avoir les quatre bandes d'images de ces planches dominicales qui vont pouvoir être présentées page par page. Il y a un travail sur la couleur qui est très précis, et c'est la qualité des techniques d'impression d'aujourd'hui qui permettent de rendre compte de cette finesse, de cette subtilité de la couleur. Alors à ce moment-là, eh bien, elles étaient tramées, donc on a ces restes de trame, mais qui ne sont pas du tout aussi pesantes comme par exemple lors des premières éditions de Little Nemo. Donc on va avoir ce personnage qui est devenu extrêmement célèbre. Segar va décéder en 1938. Ça va être son assistant, Sagendorf, qui va prendre la suite. Et la popularité de Popeye ne s'est pas démentie. Au moment du décès de Segar, il était publié dans pratiquement 600 journaux dans le monde, avec de nombreuses traductions. Il y a donc un côté important à pouvoir découvrir ce personnage qui a marqué par son tempérament la bande dessinée américaine. Et ce travail de présentation, ce format italien avec le principe des planches dominicales, est un travail qui a été fait par Futuropolis, c'est l'éditeur de ce premier Popeye. Et il y a donc une façon de fêter les 50 ans de Futuropolis, puisque la première version de cette maison d'édition avait créé la collection Copyright et qui permettait de découvrir tout d'abord les grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée américaine, et puis après on a eu par exemple quelques prestigieuses séries de la bande dessinée française. Donc, ce n'est pas la même maquette, mais c'est un travail de fond qui est complètement dans la lignée de cette première version. Donc, on a ce Popeye, Sundays 1930-1933, Desley, Chrysler, Segar. C'est traduit par Sidonie Van Driess et c'est une petite prouesse parce que les tics de langage et les expressions présentes nécessitaient un gros travail de traduction. Les 208 pages de ce recueil de planches de Popeye sont au prix de 32 € et le livre a été imprimé en Espagne. Alors continuons avec le patrimoine, et cette fois avec une œuvre alors essentielle aussi, et qui s'inscrit dans un travail de fond qui a été porté par plusieurs chercheuses et qui ont écrit un essai « Construire un patrimoine de la bande dessinée, création, mobilisation et transmission des femmes dans le 9e art en Europe et en Amérique ». Alors, j'avais présenté cet essai qui permettait de découvrir partout dans le monde des femmes autrices de bande dessinée et qui avaient vu leurs œuvres occultées et parfois carrément mis sous le boisseau. Et c'était donc ce travail de fond qui est assez essentiel. Alors, les éditions Bliss Éditions ont donc choisi, quant à elle, d'éditer Garçonne de Trina Robbins. Trina Robbins, c'est une autrice de comics américains, c'est la première femme à avoir dessiné Wonder Woman et qui a fait un essai aux États-Unis dont est tiré ce recueil Garçonne, où elle compile des créatrices de bandes dessinées américaines qui ont fait des bandes dessinées qui sont restées écartées, qui ne sont pas parties justement de ce patrimoine de la bande dessinée. Et elle, pour cette féministe américaine, il était essentiel de revenir sur ces bandes dessinées pour rendre hommage à leur créatrice, parce qu'il y avait une forte intensité dans la création, dans leur création, qui se décalait par rapport à ce qu'ont pu faire les hommes et qui pourtant marquait vraiment l'histoire à la fois de la bande dessinée et aussi le lien avec l'époque dans laquelle elle se trouvait. Je précise un peu plus donc la démarche et ce qu'on peut trouver dans Garçonne. Alors, Garçonne vient d'un terme américain qui flapper, qui va désigner une jeune femme indépendante. Et il faut se rappeler que les Américaines ont acquis le droit de vote en 1920, 2 ans après la Première Guerre mondiale. Et plusieurs femmes ont traduit dans leurs œuvres cette émergence dans les années 20 de ces femmes qui ont rompu avec les codes habituels de la femme aux États-Unis. Coupe au carré, avec de longues jambes, elles boivent, elles fument, elles ont des lèvres rouges sombres, des modes de vie insouciants, les jupes sont plus courtes, excite le corset et la femme retrouve une silhouette droite. Donc dans Garçonne, il faut voir cette image de la femme qui arrive aux États-Unis, qui s'épanouit aux États-Unis et qui casse avec les canons habituels que l'on pouvait trouver dans différentes bandes dessinées. Les autrices que Trina Robbins a rassemblées, il y a Nell Brinkley qui a fait plusieurs histoires, c'est vraiment l'autrice la plus importante qui a eu une influence très importante sur d'autres autrices et qui a vraiment marqué ce genre-là et qui sera, elle, qui va poursuivre cette écriture à la fin de ce mouvement de ces garçons, de cette indépendance que les jeunes femmes avaient pu acquérir. Il y a aussi Eleanor Scherer, il y a Edith Stevens, Ethel Hayes, Faye King et Virginia Huguette qui sont les autres autrices présentées dans ce recueil. Alors, ce qui est intéressant avec Nell Brinkley, c'est des histoires de romance, mais qu'il faut imaginer avec des femmes qui n'ont pas du tout les mêmes canons des bandes dessinées que l'on pouvait trouver avant les années 20 aux États-Unis. Et Nell Brinkley va interpeller à la fin du mouvement des flappers la position de la femme, où en est-elle? Est-ce que l'égalité des hommes et des femmes est active, effective dans les années, au milieu des années 30? Est-ce que la femme est l'égale de son mari? Est-ce qu'il n'y a pas, au contraire, cette façon d'avoir pour les hommes, en la femme, l'ami et l'esclave combinés? Et donc, en 1937, par exemple, Nell Brinkley va faire une page intitulée « Alors comme ça, vous pensiez que nous sommes le sexe faible ». Et ça montre donc bien cette indépendance de ce mouvement des flappers et ce côté essentiel de cette œuvre de Trina Robbins, de ce recueil, de cette sélection qui a nécessité de pouvoir contacter les ayants droit de ces différentes autrices, pouvoir travailler sur des planches originales, avoir ce travail d'édition d'une grande précision, et le fait que Bliss Édition assure la traduction, qui a été faite par une des coéditrices du livre, Marie-Paul Noël, permet vraiment de nous plonger et de nous immerger dans ce parti de la bande dessinée mondiale qui ont été complètement occultés pour garder un peu aux hommes ce côté très prégnant qui est digne du patriarcat les plus nauséeux. Garçonne de Trina Robbins, traduite par Marie-Paul Noël. C'est un livre de Bliss Édition. Le lettrage a été assuré par Laura Lebouc. Les 168 pages de ce livre sont au prix de 39 euros.
Fait faire 3 millions de Joconde sur papier cul, et chaque matin j'emmerde son sou. Rire ambigu. C'est ainsi que je me venge de toutes les nanas qui m'ont baisé avec leur sourire de Mona Lisa. De Joconde sur papier cul, et chaque matin j'emmerde son sou. Rire ambigu. Allez vous faire aimer ailleurs, mes petites chéries. Je me suis mise à la colle avec la souris. Je me suis fait faire 3 millions de Jocondes sur papier cul, et chaque matin j'emmerde son sou. Rire ambigu.
Les Bidochons poursuivent leur rencontre avec l'art en peinture avec ce 9e jour au musée. La sélection des œuvres est faite par Patrick Ramaz et Pierre Lacote, tous les deux historiens de l'art. Le livre est construit avec 4 pages pour 4 pages chacune pour 20 œuvres. Première double page avec la peinture à gauche et la réaction des Bidochons à droite, puis la présentation de l'œuvre de l'artiste complétée par d'autres œuvres ou des peintures directement rattachées dans la deuxième double page. De Jérôme Bosch à František Kupka, de Titien à Franta, cette sélection présente une majorité de portraits. des œuvres moins connues qui vous ouvrent à cette puissance de la peinture. La réaction des Bidochon est directe sur l'émotion, non polluée par une érudition de façade. Souvent, désarmantes, elles offrent une entrée en matière, certes naïve, à un regard plus érudit proposé par Ahmad et Lacote. Les Bidochon ont plus de 40 ans et sont des personnages essentiels de l'histoire de la bande dessinée, et ils ont relancé leur couple en 2019. Christian Binet rejoint au musée avec les Bidochon d'autres auteurs qui s'inscrivent dans l'art, dans un rapport à l'art avec une certaine impertinence. On a eu l'art du canard fait par un groupe d'étudiants entraînés par leur professeur. Il y a les Plonquéron-Plon qui ont fait une revisite du musée d'Orsay, ou Philippe Guéluc et quelques-uns de ses rapports à l'art où il a présenté des œuvres du chat dans les musées. Christian Binet est avec nous pour qu'il nous entraîne à la suite des Bidochon au musée. Bonjour Christian Binet.
Oui, bonjour monsieur.
Alors, comment est née cette envie de confronter les Bidochon à des œuvres d'art?
Alors, c'est passé comme ça, c'est qu'à Caen, il m'avait invité, comme il faisait souvent avec des personnalités, à choisir 10 tableaux à l'intérieur du musée, et ensuite, avec un public, de faire un peu la balade avec eux, puis d'expliquer un petit peu chaque tableau que j'avais choisi. Et j'avais proposé au conservateur de faire en plus un dessin où on voyait les Bidochon, en fait, comme s'ils suivaient aussi la visite et qu'ils faisaient des réflexions, celles qu'on connaît maintenant dans tous les livres que j'ai faits. Ça a été le démarrage. Alors, on a fait ça comme ça, mais ça, c'était juste en passant. Et puis, finalement, on m'a demandé la même chose au musée de Lyon. Donc, j'ai recommencé. J'aurais proposé à nouveau de faire les Bidochon qui suivaient. Et là, on était quand même, il y avait 80 personnes qui suivaient le circuit, donc on était quand même assez nombreux. Et comme j'avais fait 10 d'un côté et 10 de l'autre, j'avais proposé à Philippe Glaciel, à mon éditeur, d'en faire un livre. Donc au départ, j'ai dit voilà, ce que je propose, on va reprendre le portrait, enfin la peinture. À droite, les Bidochon, il faut une réflexion. Et moi, j'avais proposé de faire en plus une explication du tableau. Et à droite, justement, un peu d'autres choses qui se passaient à la même époque, quoi. Il y avait d'autres peintres, il y avait des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a démarré. On en a fait un, ça a très bien marché. Et bien, on est au 9e maintenant. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça implique? Comment ça se passe? Vous avez l'œuvre et les Bidochon doivent réagir. Comment se passe?
Là, vous avez dit que c'était Patrick Ramad et
Pierre Lacote.
Et Pierre Lacote qui choisissait les tableaux. Mais en fait, on est à trois à choisir les tableaux parce que j'en choisis pas mal aussi. Hein.
D'accord.
Je fais mon marché un peu partout, y compris d'abord dans les musées français, mais aussi espagnols ou allemands ou tchèques. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, on réunit chacun de notre côté une série de tableaux. Et ensuite, on fait une sélection, puisqu'il en faut 20. Voilà. Et en essayant de pas retomber toujours dans les mêmes choses, parce que il y a plein de peintures qui sont formidables, mais qu'on trouve dans tous les livres d'art. Donc, moi, j'avais proposé qu'on en trouve aussi, mais qu'il y a des choses qui me paraissent très belles, ou à tous les trois, d'ailleurs. Et donc, même si c'était une fois un peintre qui avait fait une peinture magnifique, c'est dommage de ne pas en parler, parce que c'est très bon, quoi. Et du coup, moi-même, comme ça, j'ai découvert, grâce Patrick Ramad et Pierre Lacote, j'ai découvert, en fait, des auteurs que je ne connaissais pas. Enfin, j'avais l'impression que c'était complètement une petite chose qui avait été faite dans un coin. Je me suis aperçu qu'en fait, ils avaient une grande importance dans leur temps. Ils avaient souvent côtoyé beaucoup de peintres français, notamment. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'apprends aussi. Enfin, Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu dans, parce que Internet permet ça maintenant, c'est très commode parce que tous les musées montrent ce qu'ils ont dans les coulisses. Hein. On voit pas toujours ce qu'on veut. Et donc, ben voilà, moi je fais mon marché là-dedans, ou alors au musée d'art moderne, par exemple, où j'y suis allé, on m'a fait faire le tour. Et à chaque fois, moi j'ai découvert des peintures, en plus souvent dans les musées quand ils sont fermés. Donc c'est assez fantastique en fait d'être tout seul dans les allées et de pouvoir avoir les peintures pour soi tout seul, quoi. Hein. Jusqu'à la Joconde, hein, quand on voit qu'il y a 300 personnes devant qui s'entassent pour la regarder. Moi en fait j'ai pris des photos, je suis assis à côté de la Joconde. Hein.
Alors donc Christian Binet, vous avez accès, grâce à cette série, aux différents musées dans le monde. On vous ouvre la porte des réserves. Jusqu'où ça va ?
Jusqu'au sous-sol. Parce que y a des fois, c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas plus. On m'a dit, bah, si, il y en a. Donc je suis descendu en bas et on a regardé. Et il y avait des choses vraiment intéressantes comme... Comme à Caen, on a ressorti des tableaux qui étaient en attente, enfin, parce que ça tourne aussi, hein, dans les musées, ils passent pas toujours la même chose, mais il y a des moments où on les voit plus. Donc là, c'est intéressant un petit peu de voir ces choses qui étaient très belles et auxquelles on n'avait pas toujours accès, parce que là, le journal permet justement, le livre permet justement d'avoir accès justement pour tout le temps, quoi, puisque c'est dans le livre, ouais.
Alors, Christian Binet, quel est votre rapport aujourd'hui avec les Bidochons ? Quel est le lien que vous avez avec eux ?
Bah, moi, c'est un peu mon histoire, hein, quand on reprend. C'est des choses que j'ai vues tout au long de ma carrière, hein, ça a commencé comme ça. Hein. Donc, il y a des choses que je vois et que je récupère comme ça. Il y a des gens qui ont plus payé que d'autres, comme mes beaux-parents, par exemple, puisque je vivais souvent avec eux, donc je voyais un petit peu comment ils réagissaient ou ce qu'ils pouvaient faire dans la vie, quoi. Donc après, c'est pour ça que j'ai pris des thèmes aussi, c'est que, par exemple, le téléphone, je me suis aperçu que il y a toute une génération qui a découvert ça et puis qui ne savait pas le faire marcher, donc... Ça, c'était déjà des scènes comiques, quoi, de voir comment les gens... L'ordinateur, c'est pareil, hein. Ça c'est jamais facile, même encore maintenant, hein. Les gens de ma génération ont du mal à... En plus, l'ordinateur est de plus en plus sophistiqué, ça devient de plus en plus difficile pour les gens comme moi de trafiquer là-dedans, de savoir ce qu'il faut faire, où appuyer, etc., enfin, voilà. C'est comme ça. Mais moi, c'est pour ça que là, j'ai fait un dernier Bidochon là, qui est chez Dargo. Mais après, pour l'instant, j'en fais pas plus parce que, en fait, ça, il faut un sujet, quoi. Et là, pour l'instant, il y a rien qui me frappe, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, j'attends qu'il y ait quelque chose qui m'illumine, voilà. Et donc, en attendant, j'ai fait d'autres choses, puisque je viens de sortir Marion, là, qui est complètement une histoire différente, puisque c'est une jeune fille de 18 ans qui a eu un AVC massif, et qui est encore très handicapée, d'ailleurs, mais avec une volonté de faire, hein, ça m'a toujours épaté, moi, les gens qui ont des problèmes de motricité, qui sont aussi forts dans leur vie, enfin, vraiment, ça c'est fantastique, quoi. Donc ben, moi je prends les choses quand elles arrivent, quand elles tombent, ça me choque, ça me dérange, ça m'amuse, et voilà, ça fait un thème.
Alors, dans ma question tout à l'heure, il y avait aussi est-ce que vous pouvez, Christian Binet, faire tout dire au Bidochon ? Est-ce qu'il résiste à des moments ? Est-ce que dans les réactions face aux œuvres d'art, est-ce qu'ils peuvent tout dire ? Est-ce que vous pouvez leur faire tout dire ?
C'est-à-dire que c'est un principe. Hein. C'est un vieux truc, ça, qui existe partout depuis Molière. Hein. Si vous regardez Le bronzage gentilhomme, par exemple, vous avez les bidochons. Hein. Vous avez la femme et le mari, la femme qui a du bon sens, et puis le mari qui a un crétin, faut dire ce qui est, quoi. Mais qui pense savoir tout et avoir raison sur tout. Voilà, c'était ça le principe des bidochons au départ. Donc, si je les mets dans une situation qui est à peu près la même, parce que lui, il sait, mais il sait pas, et puis elle a un bon sens, et à ce moment-là, les personnages sont déjà tout créés, quoi. Hein, parce qu'on a ça aussi dans la vie. Moi, j'ai assisté à des salons de peinture locaux où il y avait des personnels municipaux, ou le maire qui venait de... inaugurer le salon de peinture, mais qui n'y connaissait absolument rien et qui disait des trucs énormes, quoi. Donc ça c'est le bidochon. Hein. Mon beau-père, qui était aussi au conseil municipal, parce qu'il s'occupait de tout ce qui est argent, quoi, dans la municipalité, je me souviens l'avoir entendu. Il connaissait qu'une seule chose. Il avait dû la lire ou l'entendre. Et il s'est dit, oh, ça c'est bien. Ça, quand on n'y connaît rien, on peut dire ça. On donne l'impression aux gens qu'on est féru de peinture, quoi. Et il disait à chaque fois, il y a de l'espace. Voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça lui paraissait vraiment le truc intéressant qui permettait de dire, oui, moi, quand même, la peinture, ça me connaît, quoi.
Je souris en vous entendant parce qu'on voit vraiment, vraiment bien la scène. Alors, parce que finalement, sur la présentation, sur la réaction du bidochon, vous n'avez pas tant de place que ça. Est-ce que vous aviez envie de plus, d'une double page supplémentaire, ou on reste vraiment dans l'instant ?
Pourquoi pour le...
Pour la réaction du bidochon face à la peinture, par rapport au musée avec les bidochons.
Ah oui, parce que moi, au départ, c'était quand même la peinture. Hein. C'est des choses que j'aime, c'est comme la musique classique. Hein. Je suis faire une musique classique, et j'ai fait aussi un livre, mais qui ne s'est pas fait une deuxième fois, parce que ça coûtait très cher, avec un CD... Et l'orchestre des Pays de Savoie, et donc il m'avait déjà demandé pour fêter leur 30e anniversaire, je leur avais fait un spectacle, et là j'ai profité du contact pour leur dire, ben voilà, j'ai fait ça en peinture, est-ce qu'on peut refaire ça en musique? Et moi, à chaque fois, c'est pour inciter les gens à aller ou au musée ou dans une salle de concert de la musique classique. Parce que souvent, les gens ont peur, veulent pas y aller parce qu'ils se disent, c'est pas pour moi, je suis trop bête ou il faut des connaissances. Nombre de fois où j'ai dit aux gens, mais allez dans les musées, vous n'avez pas besoin de connaissances. Vous y allez, vous vous baladez, et puis vous regardez. Puis il y a des choses qui vont vous plaire, puis d'autres qui vont pas vous plaire. Celles qui vous plaisent, vous restez un petit peu. Et je raconte toujours l'histoire parce que je fréquente souvent les musées, donc je suis allé au Louvre une fois. Parce que ma grand-mère faisait des copies de tableaux au Louvre, donc c'est un peu plus petit, mais c'était vraiment hyper bien fait. Je les ai dans mon salon, je les ai gardés, et notamment les funérailles d'Atala, où on voit Atala qui croise les mains, mais on a l'impression que d'avoir 10 doigts et d'en avoir à peu près 15 ou 16. Et je dis que c'est ma grand-mère, c'est un peu, c'est vrai que c'est dur, hein, les doigts croisés. C'est très difficile à peindre. Donc je suis allé au Louvre, puis j'ai été voir le même tableau. Et en fait, je me suis aperçu que le peintre avait l'air d'avoir fait exactement le même défaut. Et après, j'ai regardé mes doigts, je les ai croisés, mais j'ai dit, ouais, effectivement, on peut pas faire autrement que de donner l'impression qu'en fait, on a plus de doigts que prévu. Ouais. Et donc j'étais assis sur une banquette, je regardais le tableau, puis j'avais un gamin comme c'était la grande galerie là au Louvre, avec du parquet ciré. J'avais un môme qui faisait des allers-retours en glissant, ce qui était très gênant parce qu'il me passait devant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça n'arrêtait pas. J'ai dit tout à l'heure, je vais me lever, mon vieux, je vais te balancer par la fenêtre, ça va pas durer. Hein. Et puis, pendant que j'y étais, d'un seul coup, silence. Ah, je dis, bah, qu'est-ce qui lui arrive? Je regarde et il avait vu un énorme tableau sur le déluge et il était là, complètement bloqué, la bouche ouverte. Et à chaque fois, je prends cet exemple-là pour les gens, je dis, voyez, il connaissait pas la peinture. Ça l'emmerdait, il glissait, il s'amusait. D'un seul coup, il est tombé là-dessus, et à mon avis, il va l'avoir en tête jusqu'à la fin de ses jours. Je dis, ben faites pareil, allez n'importe où, et plein de petits musées dans les villes secondaires, etc., où on trouve très 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 belles choses. Puis en plus d'être tranquille, personne n'y va. Parce que ils ont du mal à vivre tous ces musées. Et moi, à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de voir s'il y a un musée. Et s'il y en a un, je le visite. Et ben, j'ai trouvé, je sais pas, à Metz, des tableaux de Soulages, par exemple. Vous vous rendez compte, vous trouvez ça dans les grands musées du monde entier. Mais je ne m'attendais pas à voir un Soulages, parce qu'il y en avait un à Caen aussi. Donc, ces petits musées moins importants, finalement, souvent, ont des œuvres magnifiques. Hein.
Christian Bunet, je vous propose une pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques minutes, et on va parler un peu plus dessin, et on reparlera donc de Marion aussi. À tout de suite.
Oui, d'accord.
The human race was dying out. No one left to scream and shout. Evil walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down. Hanging in and holding fast. Hope our little world will last.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Christian Bunet à l'occasion de la parution d'un 9e jour au musée avec les Bidochons. Christian Bunet, quel dessinateur êtes-vous ? Comment ça se passe sur la table à dessin ou sur la palette graphique ? C'est tout à l'énergie ? C'est centré, dense, ou au contraire, il y a un trait posé qui, dans cette souplesse, dans cette facilité, se crée sur la page.
En fait, je suis autodidacte, donc en fait, j'ai pas appris de dessin et j'ai eu beaucoup de mal à dessiner, quoi. Donc, j'ai essayé de trouver un style qui me permette de le faire vite, voilà, comme si on faisait un croquis, voilà, parce que je suis incapable de faire des choses complexes, compliquées, etc. Moi, je suis beaucoup plus intéressé en fait par l'écriture. C'est ça qui m'amuse. Je vais mettre un mois et demi pour faire deux pages d'écriture pour trouver justement le bon mot, etc., le truc percutant. Et puis par contre, le dessin, pratiquement une journée, c'est fini, quoi. Donc les choses qui m'emmerdent, je les dessine pas ou je trouve un moyen de le faire. C'est pour ça que les billes de chaussures, vous voyez pas les pieds, parce que je sais pas faire les chaussures de face. Et puis les voitures, je sais pas les faire non plus. Donc j'essaie de trouver faire en sorte que ce soit le plus simple possible, quoi.
Christian Binet, à quel moment intervient le dessin ? Est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce qu'il y a...
Tout est fini, hein. Parce que après je fais la mise en page et puis le dessin il va très vite derrière, quoi. Et oui ça il y a pas de rature, en fait, pas au moment où je dessine. Tout est déjà fait, tout a été raturé, changé, etc. avant. Ouais. Non, moi c'est vraiment c'est le gag, en fait. Je pourrais faire du théâtre ou du cinéma, mais moi je fais de la bande dessinée, ce qui me va très bien, puisque j'ai essayé le théâtre et le cinéma, mais il faut travailler avec d'autres, ça devient très compliqué. Moi je suis habitué à travailler tout seul, donc je fais mon petit théâtre ou mon cinéma moi tout seul. J'ai vu que le cinéma, par exemple, pour avoir deux chaises de plus, il faut parlementer avec le producteur. Tout ça, ça m'évite. Si je veux une armée, par exemple, plutôt que d'aller dessiner, bah, je mets des petits points au fond, là-bas, à l'horizon, et puis il y en a un qui crie « Allons-y, les gars, à l'attaque », et puis ça suffit, quoi. Ça marche très bien. Au tout début, le premier numéro de Bidochon, je m'étais même amusé, en fait, à retirer tout ce qui tout ce qui était mobilier, des choses comme ça, et j'avais mis juste le nom et les flèches. Ça a très bien marché parce qu'on m'en reparle encore.
Alors par exemple, pour au musée avec les Bidochons et pour ce 9e jour, comment ça se passe? C'est le texte qui émerge d'abord, Christian Binet, ou il y a un visuel qui vient avec?
Ah non, c'est c'est tout simple, hein, le visuel, parce que les bidochons, sont toujours à la même position, hein, ils sont mis de telle façon qu'ils regardent le tableau, quoi, c'est tout, hein, ils se baladent dans le musée puisqu'ils visitent le musée là, et puis ils s'arrêtent dans certains tableaux qui les accrochent, qui leur dit quelque chose, voilà. Et puis aussi parce que je sens qu'il y avait des rapports avec ce que je connais ou que j'ai déjà vu, par exemple le tableau où on voit des arbres avec de la lumière un petit peu plus loin, ça me rappelle un grand marcheur en montagne, et donc quand on montait la montagne, en fait, on a d'abord des forêts, puis après c'est dénudé et on voit effectivement le ciel, mais avant, le ciel on le voit depuis très 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 loin en bas, et avant d'y arriver, c'est très long, et j'ai trouvé ça dans le comme peinture, et donc les Bidochons, regarde ça leur rappelle aussi quelque chose, en fait, ça me rappelle moi, voilà, elle s'en rappelle, et puis lui il dit, en fait, tu veux dire que c'est la fois où j'ai mis j'ai marché dans une crotte de chevreuil, et donc lui est complètement déconnecté, donc c'est toujours le principe des Bidochons, elle s'intéresse à la peinture, puis lui, en fait, il a quand même un mauvais souvenir, en fait, voilà.
Christian Binet avec Marion, écrit avec Marion Lara, vous avez bousculé un peu votre façon de faire. Il y a beaucoup de propositions, à la fois narratives dans la mise en scène, également graphiques sur la représentation d'une personne qui est victime d'un AVC invasif. Comment s'est passée cette écriture de ce récit avec Marion Lara et de ces solutions narratives et graphiques?
Écoutez, c'est assez bizarre. Je m'y attendais pas. Et puis, je n'aurais jamais imaginé avoir envie de faire ce genre d'histoire, d'album. Donc, elle avait écrit son histoire, c'était Paris chez Stock, je crois. Et dès la première page, en fait, elle explique qu'elle venait de lire un album des Bidochons, elle s'apprêtait à sortir, et elle était dans la salle de bain et elle s'est écroulée et plus que le, plus rien ne marchait quoi. Elle était, donc ça a commencé comme ça. Et elle, alors le livre a été édité. Ensuite elle me l'a envoyé, donc j'ai lu ça. J'ai vu qu'il y avait effectivement elle parlait de moi à la première page. Les mauvaises langues diront qu'elle a eu un AVC parce qu'elle lisait les bidochons juste avant, mais enfin, faut pas les croire. Hein. J'avais dit ça à Marion, elle s'était marrée, parce qu'en fait, elle a beaucoup d'humour. Hein. Et donc, à partir de là, puis c'est tout, quoi. J'avais parlé comme ça, j'avais envoyé un petit dessin pour la remercier, en me demandant si j'avais fait les bidochons, qui lisait son livre, justement. Et Monsieur Bidochon disait à Madame Bidochon, là, t'es en train de lire un livre, qu'est-ce que c'est? Elle dit, bah, c'est un livre de Marion, et ça s'appelle comment? Et il dit, la pilule est amère. C'était le titre du livre. Et Monsieur Bidochon lui répondait, mais attends, le Doliprane aussi, c'est amère. On va pas en faire un bouquin. Donc, j'avais fait ça. Et puis après, une fois fini, je lui ai envoyé, mais comment elle va réagir? Alors, j'avais été sur Internet, puis j'ai vu qu'en fait, il y avait des photos d'elle où on la voyait vraiment rire aux éclats. Alors je me suis dit, bon, je vais essayer. Puis après, c'est passé 15 jours, j'avais plus de nouvelles. Je dis, ah là là, j'ai fait une connerie. Et en fait, c'est parce qu'elle était parvenue chez elle depuis 15 jours, là. Et quand elle a découvert le courrier, elle m'a écrit. Et l'histoire a commencé comme ça. Après, j'y ai repensé. Puis un jour, j'ai trouvé les deux premières pages, en fait. Puisqu'il y a trois personnages, il y a le directeur de laboratoire, l'avocat et elle. Et en fait, tous les trois devaient sortir au même moment à ce moment-là. Les deux premiers sont au restaurant, dans la page suivante, et elle est par terre. Voilà, ça a commencé comme ça. Je lui dis, mais c'est dingue, on pourrait raconter toute l'histoire comme ça. Alors après, évidemment, moi, je fais de l'humour, donc j'ai gardé un petit peu le côté humour. Mais en même temps, chaque fois que je parlais d'elle, de tout ce qu'elle a subi, je dis, je fais quand même pas faire un truc rigolo. Donc c'est là en fait que j'ai cherché des dessins qui exprimaient en fait ce qu'elle ressentait, elle, d'où ce que vous me disiez. C'est déjà, il y a un peu de tout dedans, parce que c'était plus en situation que si j'avais fait des personnages rigolos. Mais après, on a travaillé tous les deux, hein. On s'était souvent au téléphone, moi je lui posais des questions, j'ai appris beaucoup aussi, parce qu'il y a telle chose que je connaissais pas. On dit que, par exemple, les gens qui ont un gros AVC comme ça, ils essaient de parler, et le mot ne vient pas, mais je dis, il y a bien un moment où ça vient, elle me dit oui, et il me dit, ça se passe comment? Et c'est là qu'elle m'a dit, mais on a le mot, mais dans une fraction de seconde. Le mot disparaît, quoi. Ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours les mots, mais ils ne sortent plus, ils ne passent plus, quoi. Voilà. Et donc, moi, j'avais repris ça dans le livre, en fait. On la voit faire ça. Et c'est pour ça qu'on voit des personnages qui ont eu un AVC et qui cherchent une espèce de one man's land noir avec des épuisettes pour essayer d'attraper les mots. Voilà, c'était un peu le... j'ai trouvé des tas de choses comme ça qui permettaient d'exprimer ce que c'était que l'AVC et comment on pouvait le vivre, mais de façon ludique, en fait. Hein, voilà, ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai vu beaucoup de... À une époque, de gens qui aiment du mal à marcher, par exemple, ou qui boitaient, ou... Et j'ai vu des gens se moquer d'eux, et moi, ça m'est toujours resté, ça, par contre... Et heureusement, il y a eu les Jeux Olympiques pour les handicapés, et ça a changé quand même beaucoup de choses, parce que les gens, de seul coup, se sont mis à s'intéresser à ce qu'ils faisaient, et il y a peut-être moins de rigolades qu'à une époque. Ouais.
Merci beaucoup, Christian Binet. Et je vais rappeler les caractéristiques de vos deux livres dont on vient de parler, Un neuvième jour au musée avec les Bidochons, donc c'est publié par les éditions d'Argot. Les 88 pages de ce livre sont au prix de 26,50 €, et Patrick Ramade et Pierre Lacotte ont aussi participé donc à la présentation des œuvres. Et puis il y avait donc Marion, en collaboration avec Marion Lara, et les 48 pages de ce livre, publié également par les éditions d'Argot, sont au prix de 12,50 €. 50. Merci beaucoup, Christian Binet, et très bonne continuation avec les Bidochons.
Merci beaucoup.
Au revoir. Finir cette émission, une autre œuvre patrimoniale, c'est Le ver de terre amoureux d'une étoile et autres bandes dessinées de Benjamin Rabier. Alors, cette édition patrimoniale n'est pas l'apanage seulement de maisons d'édition qui ont pignon sur rue ou qui ont des possibilités financières importantes, même si elles œuvrent dans ce domaine également. Mais c'est aussi le travail de structures éditoriales de moindre importance, mais qui font un travail de fond. Et c'est le cas des éditions 2024, qui sont basées à Strasbourg, et qui ont par exemple publié les bandes dessinées de Gustave Doré, puisque effectivement, Gustave Doré a fait de la bande dessinée, qu'on a pu découvrir grâce aux éditions 2024 et leur collaboration avec le musée de Strasbourg, qui conserve un très grand nombre d'originaux de Gustave Doré, qui a pu donner ainsi une édition assez remarquable. Et je vous invite à lire l'histoire de la Sainte-Russie de Gustave Doré, qui est un petit chef-d'œuvre avec un humour et une puissance à la fois narrative et graphique absolument étonnante. Cette fois, les éditions 2024 s'associent à la BNF pour publier ses œuvres de Benjamin Rabier, qui est un auteur français qui est né en 1864 et décédé en 1939, et qui est un des très grands illustrateurs animaliers, qui a une œuvre très intense, dont tout le monde connaît au moins une image, c'est celle de la vache qui rit, qui est dessinée par Benjamin Rabier. Et cet auteur donc a eu une production importante. Il a publié plus de 1400 pages dans différentes revues, La Chronique Amusante, Le Gil Blas Illustré, La Jeunesse Illustrée. Et donc, on a une œuvre où l'animalier a pris une place très importante, et il va avoir une influence grande sur de nombreux autres auteurs. Et on se retrouve finalement, quand on regarde cette histoire de la bande dessinée, du dessin animé, avec une représentation animalière façon Disney, et une représentation façon Benjamin Rabier. Et c'est vrai que Gédéon, le canard créé par Benjamin Rabier, n'a pas pu concurrencer Donald Duck. Mais par contre, lorsqu'on lit les bandes dessinées, lorsqu'on on s'immerge dans cette représentation animalière, il y a une qualité de représentation, une façon aussi de donner des expressions aux animaux tout en leur gardant une physionomie qui est celle des animaux d'origine, avec un travail au trait d'une grande lisibilité, mais qui est toujours au plus près des expressions, des silhouettes des personnages, et ces faces d'animaux qui s'humanisent et qui prennent des expressions d'une très grande efficacité visuelle. Alors, le Benjamin Rabier donc a cette importance et cette présence grandissante. Il y aura une revue qu'on va lui confier, dans laquelle deux fois par semaine il va créer la totalité du journal. Un auteur comme Alain Saint-Augan, qui a créé Zig et Puce, eh bien, considère Benjamin Rabier comme son maître et va lui demander conseil. Et c'est Rabier qui va donc stimuler Saint-Augan, et Hergé fera pareil avec Alain Saint-Augan, et il ira lui présenter les premières pages qu'il avait dessinées. L'importance de ce recueil, c'est qu'il est très intelligent. C'est pas simplement la reprise d'un album ancien comme on a pu avoir avec la réédition des différents Gédéon, qui sont importantes. Mais là, il y a vraiment une œuvre qui permet de nous immerger dans l'écriture même de Benjamin Rabier. C'est-à-dire que les œuvres vont être regroupées. On va avoir La vie des bêtes, on va avoir la vie des hommes, la façon dont les animaux peuvent utiliser des objets vont être regroupés dans un chapitre, et on va donc avoir la juxtaposition d'œuvres pour créer un corpus cohérent dans différents chapitres, et qui vont vraiment donner toute cette qualité d'écriture dessinée à Benjamin Rabier. La préface est très pertinente, avec une connaissance à la fois de la bande dessinée, mais aussi de son histoire et de l'histoire de la presse en général. Elle est signée Antoine Sauzevert, et c'est vraiment éclairant, et cette introduction va nous guider tout au long de la lecture de ce recueil. Alors, autre plaisir, c'est le format. Il faut imaginer des œuvres qui ont pu être publiées dans des journaux. Donc souvent, c'est des tabloïds ou de format un peu plus réduit. Mais donc, on a un album qui est pratiquement un 30-40. Donc c'est un très grand format. Et là où une petite structure éditoriale va faire aussi bien et parfois même mieux que certaines grandes, c'est la qualité de la production, de l'édition de ce livre, sur la couverture, sur le traitement de la couleur, sur la reliure, c'est une reliure cousue, sur la qualité du papier. On a vraiment des pages qui provoquent des émotions parce que tout est fait pour cela, et ça marche. Redécouvrir Benjamin Rabier à travers cet ensemble de bandes dessinées judicieusement agencées. Donc ça s'appelle Le ver de terre amoureux d'une étoile et autres bandes dessinées comprises de 1895 à 1922 et qui permettent de découvrir toute l'ampleur, toute l'importance de cet auteur français qui a donc œuvré en bande dessinée. Certaines personnes de mon âge ont pu découvrir déjà Benjamin Rabier, le lire, mais pour les plus jeunes, vous allez voir la modernité de cette écriture, et c'est d'autant plus intéressant de la lire, que ça permet de mettre en perspective ce qui se fait aujourd'hui. Le ver de terre amoureux d'une étoile et autres bandes dessinées de 1895 à 1922 de Benjamin Rabier. C'est une coédition entre les éditions 2024 et BNF Éditions. Donc c'est un grand format et les 96 pages de ce livre sont au prix de 35 euros. Bon, je vous le dis, c'est un cadeau de Noël, mais vous allez voir, ça va faire des heureux. Écoutez, on va se quitter. La semaine prochaine, nous serons avec Alain Bujac pour un très beau livre qui se déroule pas loin, puisqu'on va être près de Béziers, partir à Béziers. Ça s'appelle « Silence sur le quai ». Et puis voilà. Merci Fabien pour cette technique. On a démarré un peu plus tard, on finit un petit peu plus tard. Et très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.